Chapitre 43. Poire d'angoisse et chat à neuf queues. Les deux soldats, Helios et Novak, encadraient Mordelia. Leurs deux beaux s'abattraient sans hésitation si la sorcière esquissait le moindre geste suspect. Ils se méfiaient. Quand Mordelia était arrivée au château, elle était incapable de marcher. Sa jambe droite était entièrement paralysée suite à son accident dans la forêt de Fausse Repose. En quelques jours, pourtant, elle était parvenue à se tenir debout. Elle avait remarché, en boitant, au bout d'une semaine. Et après un mois et demi de captivité, elle semblait capable de gagner l'épreuve de vitesse du tournoi de l'étoile. La guérison paraissait miraculeuse. Et même si Moebia avait affirmé qu'il était tout à fait normal qu'un os se répare tout seul en un mois, la plupart des soldats y voyaient l'effet d'un effrayant pouvoir maléfique. Novak et Helios s'engagèrent avec la sorcière sous la galerie à colonnades de marbre rose reliant les deux parties du Grand Trianon. Ils prenaient soin de ne laisser aucun espace entre leurs bâtons et Mordelia. Leurs pas résonnaient sur le pavé à damier noir et blanc de la longue allée. Ils avaient eu l'ordre de l'accompagner jusqu'à une cave située sous le Trianon, une cave dont ils ignoraient l'existence avant que Jeanne d'Arc ne leur remette la clé. « Vous descendrez le grand escalier de marbre, » avait ordonné le ministre des Punitions. « Vous ouvrirez la porte en face et vous remonterez aussitôt, sans vous retourner en laissant la prisonnière seule. » Helios et Novak n'avaient pas discuté. Quand ils étaient venus chercher la sorcière noire, le gros Bill, avec sa cape d'oiseau déplumée, leur avait sauté à la gorge.
« Ne les suis pas, Mordelia !»
hurlait-il.
« Ils vont te tuer ! Ils vont te tuer ! On ne doit pas se séparer !»
Ils avaient dû le calmer à coups de beau d'abord, puis faire appel à Idriss et Django. Il n'avait pas été trop de quatre pour l'immobiliser, alors que Mordelia les suivait sans protester, sans prononcer un mot, ou alors dans sa tête, on leur avait raconté que certaines sorcières étaient capables de jeter des sorts sans même desserrer les lèvres. Après avoir descendu une trentaine de marches, ils se retrouvèrent, comme Jeanne d'Arc le leur avait annoncé, devant une porte de bois, renforcée d'épais clous de fer et de barres de cuivre. Novak introduisit une clé dans la serrure de métal rouillé, puis poussa légèrement la porte.
« Nous avons ordre de te laisser là, » fit Novak. « Ne cherche pas à te sauver, il n'y a pas d'autre issue, et nous attendons en haut. »
Dès que les pas des deux soldats dans l'escalier ne furent plus que des échos lointains, Mordelia ouvrit la porte en grand. La vaste cave voûtée qui s'étendait devant elle était éclairée par une dizaine de torches enflammées.
« Pour une fois, » pensa Mordelia, « cet idiot de Bill avait sans doute raison. On allait l'exécuter en toute discrétion. » Elle n'avait pas peur, pourtant. Elle avança dans la pénombre et s'arrêta presque aussitôt. Quelqu'un l'attendait dans la cave. Quelqu'un qui n'aurait pas dû se trouver là. Quelqu'un qui, logiquement, ne pouvait pas se trouver là. Il l'attendait dans cette cave, et c'était évidemment lui qui avait donné aux soldats l'ordre de l'amener, seul, dans cet endroit à l'abri des regards. « Bonjour, Mordelia. » La voix était celle rassurante d'un ami que l'on n'a pas croisé depuis longtemps et que l'on est content de retrouver. « Avance, je dois te parler. » Elle s'approcha sans trembler. Eugénor se tenait devant elle, dans son fauteuil roulant. Comment avait-il pu descendre jusque-là? Il n'y avait qu'un seul escalier, et trois. Mais après tout, pensa Mordelia, cette question importait peu. « Tu vas me tuer ?» demanda celle qu'on appelait la sorcière. Eugénor fit rouler son fauteuil un peu plus loin dans la cave. « Non, bien au contraire. Le conseil du château vient même de voter ta remise en liberté. Toi et Bill. » Mordelia resta impassible. Elle n'avait aucune confiance dans l'ado handicapé. « Ma liberté ? À échanger contre quoi ? » contre la vérité. La sorcière éclata d'un rire.
Et toi, tu aurais voté ça? Je ne te crois pas.
Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Je t'ai juste dit que c'est ce que la majorité du conseil a décidé. Elle fit quelques pas dans la pièce sombre et vide. Seules de grandes caisses de bois étaient entreposées contre les murs de pierre.
Ah, c'est vrai, ricana Mordelia. Votre foutue démocratie. Aucun chef pour décider. Et quelle vérité la majorité veut-elle entendre?
Tu t'en doutes. Elle veut entendre de ta voix le récit du troisième livre, celui à cause duquel tu es en guerre contre ceux du château. C'est la condition pour qu'ils puissent te comprendre, peut-être même t'excuser. Elle ne réagit pas et se pencha sur l'une des caisses de bois. Elle contenait de curieuses petites boules de bois qui semblaient s'ouvrir avec une clé.
« Ce sont des poires d'angoisse, » précisa Augénor. « Des instruments de torture du Moyen-Âge. On entre la boule dans la bouche, on tourne les vis, et la boule s'élargit, écartèle la mâchoire jusqu'à la faire exploser. J'ai retrouvé des caisses entières de vieux instruments de torture dans des salles oubliées du Louvre. J'ai assisté pour qu'elles fassent partie du premier convoi. N'appartiennent-elles pas, elles aussi, au génie créatif des adultes du monde d'avant? Je suis certain que tu es d'accord avec moi. »
Mordelia ne répondit pas, mais continuait d'observer avec attention les bois vernis et les ressorts cachés des poires d'angoisse.
« Ce troisième livre, » répondit enfin Mordelia. « Tu l'as lu, avant de le brûler ?»
Augénor regarda la fille en noir avec curiosité. Ainsi, elle était au courant de tout. Qu'ils avaient découvert le sarcophage de Marie-Lune et qu'ils avaient jeté au feu le récit de Pierre-Sol. Il est vrai qu'elle était emprisonnée au Trianon depuis 6 semaines maintenant, gardée par des soldats bavards. Mordelia savait sans doute très bien écouter et les faire parler.
« Non, » fit sobrement Augénor. « Je ne l'ai pas lu, mais je devine son contenu. »
Mordelia se dirigea vers une deuxième caisse de bois. Elle continua avec une apparente désinvolture.
« Pourquoi ? Parce que t'es le bâtard de Marie-Lune ? Tu es le fils de cette salope ?»
Les doigts d'Augénor se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil roulant, mais il encaissa sans broncher. Mordelia, consciente qu'elle avait repris l'avantage dans la conversation, enfonça le clou.
« Et va pas t'imaginer que moi aussi je suis sa fille, et qu'on serait frères et sœurs jumeaux tous les deux. Laisse ces rumeurs aux soldats qui croient qu'une sorcière peut cracher du feu si on la met en colère, ou transformer leur beau en serpent. »
« Je n'imagine rien. Tu as raison, il n'y a aucune raison particulière pour que tu sois ma sœur. »
Il marqua un bref silence. « Et aucune preuve non plus que tu ne le sois pas. » Mordelia ne trouva rien à répondre cette fois. Elle devait se méfier de la froide logique de cet ado handicapé. Elle poussa le couvercle d'une autre caisse de bois.
« Donc, » continua Augénor, « le conseil a voté pour le pardon et la réconciliation. N'est-ce pas incroyable? Qu'est-ce que tu aurais dû faire de plus pour qu'il te condamne? Incendier tout Paris? Nous enfermer et nous laisser brûler vifs? Nous poignarder pendant notre sommeil? Je sais que tu les mépriseras encore davantage pour ce pardon. À tes yeux, ce n'est qu'un nouvel aveu de faiblesse de la part d'Akane, ou des ministres, ou d'Alix. Je sais que tu ne te soumettras pas, ni toi ni ton compagnon. C'est pour cela que je t'ai fait venir ici, discrètement, pour te proposer un partenariat. »
La sorcière observa les fins bâtons de l'épaisseur d'un doigt empilés dans la caisse, des instruments de torture qui paraissaient bien inoffensifs.
Des batogues, expliqua Augénor. La torture préférée des Russes.
On s'en servait pour frapper le dos des condamnés. On cognait jusqu'à ce que le bâton se brise, puis on en prenait un autre.
C'est ce qui m'attend si je refuse ton partenariat ?
Non, répondit aussitôt le conseiller. Je sais que ni la peur, ni la menace, ni le chantage ne te feront céder. Tu n'obéiras toujours qu'à tes convictions et ton intérêt.
Exact, affirma Mordelia en continuant de s'enfoncer dans la pièce.
Elle semblait se moquer des toiles d'araignée qu'elle déchirait en longeant les murs et qui s'accrochaient à ses cheveux blancs.
À mes convictions, mon intérêt et mon instinct, me souffle de me méfier de toi. Tu n'es pas un faible comme Akane ou les autres. Après ce que j'ai fait, tu aurais dû me tuer depuis longtemps. Un accident discret, on me retrouve le cou brisé en bas de l'escalier, ou noyé dans le grand canal.
Crois-moi ou pas, mais moi aussi j'ai des convictions, et le respect de la vie en fait partie.
Mordelia sifflota pour bien montrer à quel point elle ne le croyait pas.
Et si, le défia la sorcière, j'acceptais la proposition du conseil? J'échange ma liberté contre la vérité. Je raconte tout ce que contenait ce livre récupéré par cette petite sotte de Chrysanthe. Je dis qui était véritablement ta chère maman Marie-Lune, comment elle a laissé mourir des centaines d'enfants. Tu crois qu'après, mes compagnons du tipi vont se précipiter pour construire son mausolée? Tu crois qu'ils vont continuer de la prier comme une sainte et de lui apporter des fruits pourris? Même ceux du château, avec leur bonne conscience, risquent fort de ne plus tellement honorer la mémoire de votre douce maman à tous.
Eugénor fit rouler son fauteuil vers de nouvelles caisses. La menace de la sorcière ne paraissait pas le déstabiliser.
Si tu avais voulu parler, fit le conseiller, tu l'aurais déjà fait.
Le conseil va t'inviter à t'exprimer dans l'arène, devant tous les enfants, mais je sais que tu ne diras rien.
Pourquoi je me tairais ?
Pour une raison toute simple. Ce livre est ton secret, depuis que tu es né ou que tu as l'âge de t'en souvenir. Grâce à lui, tu sais ce que les autres ne savent pas. C'est ta force, cette connaissance, c'est ta différence. Si tu parles, si tout le monde en sait autant que toi, tu n'auras plus aucun pouvoir.
Mordelia sifflota encore, mais d'admiration cette fois.
Ils n'ont pas tort, ces idiots de soldats qui te considèrent comme une sorte de demi-dieu tout-puissant. T'es plutôt intelligent. Et tu avais toutes les raisons de te débarrasser de moi. Si tu ne l'as pas fait, c'est que quelque chose te retient. Soit tu crois vraiment que je suis ta sœur.
Eugénor, agacé, agita sa main comme s'il chassait une toile d'araignée.
« Soit, continua Mordelia, tu as vraiment besoin de moi. »
La sorcière n'en dit pas davantage et se pencha sur une autre caisse, éventrée, sans doute abîmée pendant le déménagement. Des boyaux noirs sortaient d'entre les planches, tels les viscères d'un animal gigantesque. Elle en attrapa une pleine poignée, éteint dans sa main de fines lanières de cuir, pour la plupart nouées et fixées à un manche de bois.
« Des chats à neuf queues, » fit Eugénor. « Le fouet le plus redouté des marins, des déserteurs, des esclaves. Le monde d'avant le nuage rivalisait d'imagination quand il s'agissait d'infliger des souffrances. »
Il tourna les roues de son fauteuil pour se rapprocher au plus près de Mordelia.
« J'ai vraiment besoin de toi. »
Elle tenait toujours le fouet en main.
Sa réponse claqua. « Je ne te crois pas. Je suis certaine que tu me tends un piège. »
Eugénor balaya du regard la pièce vide, à l'exception des instruments de torture entassés.
« Quel piège ! Tu as déjà tout perdu, Mordelia. Même ta longue vue. Tu n'as plus aucun endroit où aller, tu n'as plus aucun livre dans ton sac, tous tes partisans t'ont abandonné comme une volée de moineaux. Tu as tout perdu, à part Bill, bien sûr, mais tiens-tu vraiment à lui ? Moi, j'ai vraiment besoin de toi, parce que nous avons un nouvel ennemi. Un ennemi commun. »
Mordelia, en apparence indifférente à ses arguments, jeta son fouet dans le plat de spaghettis noirs débordant de la caisse. Puis,
fit trois pas en avant et passa sa main sur un épais pieu de bois dont elle imagina qu'il servait jadis à empaler les gens.
« Notre ennemi, » précisa Augénor, « ce sont les Prémas. »
Cette fois, Mordelia se retourna.
Augénor lui expliqua rapidement les détails de l'expédition de l'Albatros, la découverte de la clinique des immortels dans l'estuaire du fleuve et les centaines de Prémas enfuis dans la forêt au premier tir d'arbalète.
« Je te crois pour les Prémas, » admit Mordelia. « J'avais entendu les soldats en parler. Mais moi, je te sers à quoi ?»
Elle allait cette fois observer deux planches de bois, reliées par une corde, sans doute une invention destinée à broyer les jambes d'un prisonnier que l'on voulait faire avouer. Augénor, d'un déplacement rapide, se plaça entre elle et le mur.
« Écoute-moi, Mordelia. Je l'ai compris dès que tu as quitté la cour carrée après la bataille et que nous nous sommes défiés du regard. Jamais je n'avais vu une fille avoir autant de cran, autant de volonté. Je ne sais pas si nous avons le même sang, mais je sais que nous sommes faits du même fer. Je n'ai pas envie de me priver de ta force, Mordelia. Je te jure que je te dis la vérité, j'en aurais besoin. Ces Prémas sont plus nombreux que nous, beaucoup plus nombreux. Bientôt, ils marcheront vers nous, ils nous encercleront. Si nous sommes suffisamment habiles, nous pourrons les domestiquer ou les éduquer, c'est le mot que nous emploierons devant les autres. Et si nous n'y parvenons pas, s'ils refusent de se soumettre, nous devrons les éliminer.
Mordelia baissa les yeux et planta son regard dans celui du jeune handicapé.
« Je comprends. Tu as besoin d'une magicienne pour les ensorceler.
Tu es la meilleure à ce jeu-là. Tu sais envoûter les esprits faibles, tu vas détester les Prémas, autant qu'ils vont t'adorer. »
Mordelia sourit malgré elle. Même si elle n'avait toujours pas donné son accord, Augénor savait que leur pacte était scellé.
Avait-elle d'autres choix dans l'immédiat ?
Il roula vers la sortie, comme pour laisser à Mordelia le temps de réfléchir, puis cogna contre la porte de bois, sans doute pour que des soldats musclés viennent le chercher. Il se retourna une dernière fois vers la sorcière, alors que des pas résonnaient déjà en haut de l'escalier.
« Mordelia, pour acter notre partenariat, notre alliance, si tu préfères, j'ai une dernière chose à te demander. »
La sorcière semblait fascinée par une roue de la taille d'un adulte posée contre le mur. Une nouvelle fois, elle laissa Augénor continuer sans lui répondre.
« Tu vas adorer ma requête, » insista-t-il. « Car jamais un frère ne demanderait cela à sa sœur jumelle. »
Les pas approchaient dans l'escalier. Il observa longuement Mordelia, l'étoile d'araignée dans ses cheveux blancs teints à la chaux, la poussière accumulée sur son visage, assombrissant les brûlures encore rouges qui dévoraient ses joues, son menton et son cou, sa robe noire déchirée, ses pieds nus écorchés. Elle se tenait pourtant debout, droite et fière.
« Vas-y, abrège !» aboya la sorcière. « Tes porteurs vont bientôt arriver !»
Mordelia, veux-tu être ma cavalière pour le grand bal dans 3 jours ?